Bonsoir, bonsoir. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Comme chaque jeudi, vous écoutez Zoom Écologie. Et comme chaque deuxième jeudi du mois, ce sont les Verts solidaires qui sont aux platines. Ce soir, nous allons parler de semences, nous allons parler d'OGM, nous allons parler de paysannerie, nous allons parler de pas mal de choses. Et d'ailleurs, Aurélien, je vais te laisser nous présenter ce dont nous allons parler ce soir.
Oui, comme vous le savez, tous les deuxièmes jeudis du mois, Zoom Écologie est consacré aux solutions locales. Face au désordre global, nous cherchons sans relâche les hommes et les femmes qui construisent à leur échelle des manières de vivre ensemble respectueuses de l'homme et de son environnement. Nous appelons ça les topies, par opposition aux utopies. Mais il est des moments où la solution alternative locale est tout bonnement impossible à mettre en place. Il faut alors lutter en commun pour changer les lois. La loi qui nous intéresse ce soir a été votée la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Elle va contraindre les agriculteurs à payer une taxe aux semenciers pour avoir le droit de ressemer les graines issues de leur propre récolte. Avec nous ce soir dans le studio, donc Michel Metz, administrateur du réseau Semences Paysannes, nous présentera la mobilisation contre cette loi. Mais cette victoire législative des grands semenciers n'est qu'une étape dans leur combat de fond pour l'appropriation du vivant aux dépens des paysans et de la biodiversité. La récente décision du Conseil d'État qui annule le moratoire sur le maïs OGM de Monsanto s'inscrit dans cette démarche. C'est pourquoi nous aurons également au téléphone Jean-Marie Sirvins, apiculteur, qui nous exposera le danger des OGM pour toute la filière apicole européenne. L'autonomie paysanne et la biodiversité sont plus que jamais menacées. Les abeilles vont peut-être crever, mais on n'est pas prêt de la fermer. Bienvenue à tous, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel.
Quand on voit ce que les pigeons font au statut, il faut remercier Dieu, il faut remercier Dieu, il faut remercier Dieu. Quand on voit ce que les pigeons font au statut, il faut remercier Dieu de ne pas avoir donné d'air aux vaches.
Et sur ces bonnes paroles de Marcel et son orchestre, nous allons écouter un petit morceau d'un autre groupe iconoclaste, aussi approprié puisque nous écoutons un morceau d'Elmer Footbeat. Sur The Best Of, c'est la complainte du laboureur.
Quand elle m'a dit, gars-lui, emmène-moi dans les fleurs, on fera des cochonneries pour couvrir le bruit du moteur où elle ne résiste pas à mon monstrueux engin. La cruelle villageoise m'a laissé pour de bon atteindre seul l'extase. Tout seul
ça qui est bien avec Elmer Footbeat, il y a une chanson pour à peu près tout. Alors, de labour, il ne sera pas forcément question, mais de semences, en tout cas, oui, puisque nous sommes avec Michel Metz du Réseau des Semences Paysannes. C'est à ce titre que nous t'invitons au mieux de tes nombreuses casquettes. Déjà, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce qu'est ce Réseau des Semences Paysannes ?
Oui, bien sûr. Oui. Alors, je pense que la première chose à dire, sans doute, sur le Réseau des Semences Paysannes, c'est que c'est un réseau d'acteurs. Ce sont des gens qui se sont réunis formellement à partir de 2003, qui ont créé ce réseau, mais ce sont tous des gens qui pratiquent la biodiversité cultivée. Ils la pratiquent, ils ont été recherchés des semences, soit chez des gens un petit peu anciens, soit dans les banques de l'INRA, tout ça, pour remettre en culture des variétés de pays, des variétés qui sont libres de droit, il faut préciser aussi. Et c'est au milieu des années 90, quand les OGM sont arrivés, avec les problèmes de brevets, c'était la première fois qu'il y avait des brevets sur les gènes, il y a un certain nombre de paysans qui essayent de faire les choses proprement, ils se sont dit qu'ils n'allaient plus avoir accès aux semences, tout ça. Et il y a eu d'abord des mouvements informels, et puis le mouvement s'est vraiment formalisé en 2003, lors de la création du Réseau des Semences Paysannes. Alors ça, c'est un mouvement qui a pris quand même une certaine ampleur, c'est un mouvement national, mais il y a aussi des mouvements analogues dans les pays européens. Il y a d'ailleurs une réunion annuelle qui s'appelle Libérons la diversité, avec des Espagnols, des Italiens, des Français, des Allemands, des Autrichiens, et tout ça. C'est un mouvement qui fonctionne beaucoup. D'abord, comme je le disais tout à l'heure, c'est un réseau d'acteurs. Ce sont des gens qui font, mais en plus, ils ont acquis une expérience juridique très importante. Ils connaissent bien la loi sur les semences, ce qui est très compliqué quand même. Je ne sais pas si c'est volontairement compliqué, mais le fait est que c'est très compliqué. Et par ailleurs, ils ont acquis aussi une grande technicité par rapport à l'utilisation de leurs semences, de ces semences paysannes. Il n'y a pas le technicien de la coopérative qui va vous dire comment il faut faire. Et aussi sur la valorisation des produits, et notamment dans les réseaux de semences paysannes, il y a pas mal de paysans boulangers. Enfin, c'est très court, mais voilà.
C'est une bonne présentation, effectivement. On voit aussi la dimension de do-it-yourself derrière, l'autonomie et le fait que le partage se fasse autour des différents savoir-faire que chacun peut apporter,
oui,
en fait.
Oui, je pense que le premier terme de l'association, c'est Réseau des Semences Paysannes, est extrêmement important. Ouais. Il y a effectivement beaucoup de mutualisation, des expériences, et on s'est réunis dans deux jours, puisqu'il y a notre assemblée générale, et on va justement parler, puisque le réseau comporte entre 50 et 60 associations, et à l'intérieur, il y a pas mal d'adhérents, bien sûr, à l'intérieur de chaque association. Et on va parler des modes d'organisation et une enquête qui a été faite pour savoir qu'est-ce qu'on entend un peu par maison de la semence ou des choses comme ça.
Pour parler de semences, puisqu'on est là ce soir pour en parler, je le disais tout à l'heure en introduction, on est là pour parler d'une loi, je vais plutôt parler d'un crime. Que s'est-il passé, mon cher Florent, lundi 23 novembre à 23h à l'Assemblée nationale ? Un drame pour l'agriculture française.
28, hein.
20, oui, 28 novembre aussi. Et une coquille. Un drame pour l'agriculture française, disais-je, un drame pour la biodiversité. Un petit meurtre entre amis avec ses commanditaires, ses porte-flingues et une arme du crime, nommée proposition de loi relative au certificat d'obtention végétale. Cette proposition de loi, en fait, restreint le droit des agriculteurs à ressemer une partie de leur récolte. 21 espèces sont concernées, dont la plupart des céréales et des plantes fourragères. Les agriculteurs devront payer maintenant une taxe au semencier qui leur a vendu les graines, et ce, chaque année, en fonction du nombre d'hectares cultivés à partir de ces graines. Cette taxe instaure des royalties dont il faudra s'acquitter pour cultiver une plante qu'on a soi-même reproduite. Le droit d'auteur sur le vivant se porte bien, merci. Mais le pire n'est peut-être pas là. Les espèces qui ne sont pas soumises à ces taxes sont tout simplement interdites à la reproduction en ferme. Pour la grande majorité des espèces cultivées en France, dont par exemple tous les légumes, interdiction de ressemer ses propres graines. Interdiction de les vendre ou même de les échanger. Il faut les racheter, monsieur, c'est la loi. Et les contrevenants s'exposent à des sanctions. Vous me direz sans doute qu'il est impossible à prouver qu'un champ a été semé avec des graines achetées cette année et pas l'année dernière. Eh bien, tant pis pour les agriculteurs, ils devront le prouver quand même. Ils ont désormais la présomption de culpabilité contre eux. Et à défaut de présenter une facture, crac, on verbalise. Voilà pour la présentation de l'arme du crime. Les victimes, elles, sont nombreuses. Les agriculteurs, bien sûr, y perdent toute autonomie. Ils y perdent beaucoup d'argent, bien sûr. Et un atout inestimable, celui de pouvoir travailler leurs variétés, de les adapter à leur terroir grâce à la sélection d'une année sur l'autre. Autre victime, la biodiversité, avec la disparition de variétés que l'on pouvait adapter au terroir local. Les commanditaires sont bien connus, Monsanto en tête. Imaginez le pactole. La moitié des semences utilisées en France sont des semences de ferme, c'est-à-dire ces variétés développées par les semenciers et ressemées dans l'exploitation. En taxant les agriculteurs à raison de 3,50 euros l'hectare, ce qui est prévu par la loi. Mais bon, les semenciers ont prévu de demander 10 euros l'hectare. Tablons sur 3,50 euros. Les semenciers peuvent récupérer environ 30 millions d'euros. Ce sont les premières estimations. Pas mal, hein, pas mal quand même. Comme quoi c'est rentable, le lobbying. Passons maintenant à ceux qui se sont salis les mains en se penchant sur la scène du crime, l'Assemblée nationale. Lundi 28 novembre 2011, donc, 300 personnes sont rassemblées devant l'Assemblée pour demander le rejet de la loi. À l'intérieur, seulement une trentaine de députés s'apprêtent à la voter. Le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, rejette automatiquement toutes les demandes d'amendement. Son mot d'ordre, je cite... Oui, d'ailleurs, je cite, parce que l'intégralité des débats est disponible en ligne sur le site de l'Assemblée. Voilà, ça permet de mettre des noms sur les mots et sur les lois. Je cite donc notre bien-aimé ministre de l'Agriculture. « Aujourd'hui, j'estime qu'il faut remettre du droit, remettre des règles là où c'est nécessaire, plutôt que de laisser les semenciers français dans la situation d'insécurité juridique où ils se trouvent. » Les pauvres semenciers français. Victime d'insécurité juridique, à la merci du premier agriculteur venu qui replanterait ses salades, le fourbe, sans redonner d'argent à celui à qui il a déjà acheté cette variété. Heureusement que le ministre veille au grain. À ses côtés, Jean-Charles Tagourdeau, député UMP, qui lance fièrement cette vérité universelle, je cite « Ce n'est pas avec des semences de ferme que nous allons nourrir 9 milliards de personnes en 2050. » Comprenez, l'agriculture est une affaire trop sérieuse pour la laisser aux mains des agriculteurs. Face à eux, les députés socialistes, communistes et verts. Et là, je dois avouer que j'ai quand même été agréablement surpris à la lecture des débats. Je vous passe le détail, mais je tenais à vous faire partager deux interventions. Celle d'abord de Germinal Perrault, au prénom fort à propos. Je le cite. « Ceux qui voteront le texte ce soir vont décider de taxer l'ensemble des agriculteurs de notre pays. Ensuite, ils vont remettre en cause un droit qui est un droit fondamental du métier d'agriculteur. Ce droit, mes chers collègues, il y a des siècles, voire des millénaires que les agriculteurs l'utilisent, en jouissent. Se resservir librement d'une partie de leur récolte pour ressemer fait partie de l'histoire même de l'agriculture de notre pays. Nul besoin de remonter à l'époque néolithique, cela fait partie de notre évolution et du rapport que les humains ont entretenu avec le travail de la terre. Même si le contraire a été dit dans cet hémicycle, nous allons, de fait, nous priver de biodiversité sur l'ensemble des plantes de ce pays. » Et le député de Dordogne de conclure, « En vérité, mes chers collègues de la majorité, vous êtes en train de livrer l'agriculture française au roi de la semence. Ce faisant, vous ne rendez service ni aux agriculteurs, ni à notre pays. »
Et toc. Peut-être qu'on peut revenir un petit peu avec Michel sur cet aspect historique du droit de réutiliser ses récoltes pour ressemer.
Oui, c'est un droit naturel hein, qui n'a jamais été écrit, le droit coutumier même si on veut. Et effectivement, les paysans ont toujours fait ça. Hein. De très longue date, ils ont prélevé une partie de leur récolte pour faire la semence de l'année suivante. Et disons que c'est des usages de droit collectif. C'est des droits d'usage collectif, si vous voulez, parce qu'ils échangeaient aussi. Ils avaient des règles assez précises entre eux dans les communautés. Et faut bien comprendre que ces droits d'usage sur ce qu'on appelle un bien commun qui a produit une biodiversité cultivée d'une prodigieuse richesse. Ça, c'est vraiment l'héritage de ces paysans-là. Et lorsque les semenciers lorsque l'industrie des semences est devenue un peu plus forte, Alors, mettons à peu près autour, un petit peu après la guerre, là, disons qu'ils sont arrivés à mettre en place des systèmes de protection. Alors, le système de protection qui est le plus connu, je pense que c'est intéressant de le dire, c'est le brevet. Je pense que tout le monde a entendu parler du brevet. Et c'est d'ailleurs, les OGM portent sur des brevets. Mais il faut savoir, donc, en ce qui concerne le végétal, il y a un autre système qui s'appelle précisément le certificat d'obtention végétale, qui est une forme de propriété intellectuelle aussi, qui est un petit peu différente, mais qui donne également l'exclusivité de l'utilisation à celui qui en est propriétaire. Bon, et c'est donc de celui-là dont on parle. En 61, la première convention UPOV, c'est Union pour les obtentions végétales, a été mise en place, mais elle ne s'est pas trop appliquée. Après, il y a eu plusieurs révisions, et ce qui est intéressant, c'est, je crois que c'était en 78, si j'ai bonne mémoire, le droit naturel des paysans est devenu un privilège de l'agriculteur. Hein, c'est-à-dire que ce n'était plus un droit, mais simplement un privilège. Et depuis, l'industrie semencière est devenue très forte. Hein. Faut comprendre que toute l'agriculture, enfin toutes les semences là, industrielles, sont très technologiques. Il y a des brevets ou des certificats d'obtention végétale, ça coûte très cher, la protection, le développement, les recherches et développement, tout ça coûte très cher. Et ça a eu pour conséquence qu'aujourd'hui, à peu près 70 à 80% du marché des semences est concentré entre 7 ou 8 multinationales. Hein, il y a une concentration très forte. Cette industrie est devenue très puissante. En 91, il y a une nouvelle réforme de l'UPOV. Et là, eh bien, il a été décidé que les paysans devaient payer des royalties à partir du moment où ils recevaient une partie de leur récolte. Alors, ce qui avait été admis avant, si vous voulez, c'est que les semenciers allaient chercher dans les champs ou dans les banques des semences qui avaient été donc mises au point, hein, élaborées par les paysans, et ils mettaient les droits de propriété intellectuelle, mais en échange, on admettait que le paysan pouvait continuer à faire ça. Il y avait une espèce d'équilibre qui était atteint. On peut le critiquer, mais il y avait un équilibre. Eh bien, depuis 91, au niveau européen, c'était rompu, et maintenant, ça l'est en France, aujourd'hui, en 2011.
Donc, effectivement, Germinal Peyrot n'a pas parlé pour rien dire sur ce coup-ci. À part le cher collègue de la majorité qui sonne quand même un peu faux cul, au final, c'était plutôt bien envoyé. Une autre intervention, d'ailleurs, au moment des débats qui m'a marqué, celle de Dany Poursinoff, député des Yvelines, qui dit « Nous ne pensons pas devoir nourrir tout le monde. Nous pensons que chaque peuple peut se nourrir de façon autonome. Ce n'est pas en faisant croire aux agriculteurs français qu'ils vont nourrir le monde que nous améliorerons nos rapports avec eux. Il vaudrait mieux leur donner plus d'indépendance et leur permettre d'utiliser et de faire évoluer leurs propres semences comme ils l'entendent, pas comme vous l'entendez, sous l'influence de semenciers qui vont leur mettre la main dessus pour faire du profit. »
C'est une question intéressante qui est celle à la fois de l'autonomie et de la spécificité des semences de chaque endroit. Parce que quand on parle de biodiversité qui serait favorisée par cette loi, qu'est-ce que...
Favorisée par la loi.
C'est ce que les gens qui défendent la loi disent.
C'est ce que Bruno Le Maire
défendait. Ils disent que puisqu'on permet aux semenciers de créer de nouvelles semences, on développe de nouvelles espèces et du coup, on favorise la biodiversité.
Oui, alors ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que les semenciers créent chaque année de nouvelles espèces. Bon, il y a des études qui sont faites là-dessus, par des gens de l'INRA d'ailleurs, hein, et qui montrent qu'il y a quand même vraiment deux types de semences, ça je pense qu'il faut le préciser. Hein. Il y a celles qui sont soumises, celles qui permettent d'accéder au COV, hein, le certificat d'obtention végétale, et c'est celles qui permettent également d'être inscrites sur les catalogues. Il faut savoir, pour qu'elles soient éligibles, ces semences, il faut qu'elles répondent à certains critères. Les critères, c'est distinction, homogénéité, stabilité. C'est-à-dire que de plantes qui naturellement sont extrêmement diverses, à l'intérieur d'une variété, hein, je parle de diversité intravariétale, on en fait des quasi-clones. Hein. Ça, c'est-à-dire que les semences commerciales sont des semences qui n'ont plus de diversité du tout. Alors, quand on dit que créer quelques semences commerciales supplémentaires, c'est créer de la biodiversité, alors qu'on interdit ou qu'on fait tout ce qu'on peut pour empêcher les semences qui ont de la biodiversité de fonctionner, alors là c'est vraiment... C'est pas très honnête. Si vous voulez, les semences que nous ont léguées les paysans, c'est ce qu'on appelle des semences population. Ça veut dire simplement, ce sont des semences très diverses. La meilleure image qu'on peut donner d'une population, vous allez dans une salle, dans le métro, n'importe où, vous regardez les gens, vous voyez, qui sont tous semblables et qui sont tous différents. Et ça, c'est une population. Nous avons les mêmes gènes, mais il se trouve que sur les gènes, il y a une petite différence qui fait qu'il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Ça, c'est une population. Dans le végétal, on prend une population comme ça et on en fait un type unique. À rien, je ne sais pas, mais vous voyez, il y a déjà une tentative qu'on peut qualifier de génique sur ce végétal. Alors, que les semenciers fassent ça pour l'agroalimentaire qui a besoin de récoltes tout à fait stables, homogènes, tout ça, bon, on peut admettre. Mais qu'en même temps, ils empêchent, enfin on peut admettre, ça peut se discuter, mais qu'en même temps, ils empêchent les variétés de pays, les variétés de populations d'avoir une existence juridique, ça c'est inadmissible. Et je tiens à préciser que lorsqu'il y a eu le débat parlementaire au Sénat, il a précédé celui de l'Assemblée nationale, c'était le vote du Sénat date du 8 juillet. Nos amis, ceux que vous avez cités d'ailleurs, hein, nos amis parlementaires ont déposé des amendements, et notamment un amendement demandant que l'on puisse définir deux types de variétés. Une variété de type DHS, qui est une variété monolithique, comme je le disais à l'instant, et des variétés population qui sont très diverses, qui ont une large diversité génétique. Et cet amendement a été refusé. Donc, quand je dis qui refuse que ce genre de choses, ce n'est pas un mythe, ça date du mois de juillet. Alors, sous prétexte qu'ils ne sont pas homogènes et stables. Mais précisément, leur fonction, c'est de ne pas être homogènes et stables. Et je tiens à préciser également que cette diversité intravariétale, c'est toute la force qu'a la plante de pouvoir s'adapter aux différents tiroirs, bien sûr, au climat et tout ça. Hein. Donc là, on est quand même dans un resserrement très étroit. Alors, il y a les taxes sur les agriculteurs, mais même par rapport à la biodiversité, le fait qu'on n'accepte pas les populations et que, par ailleurs, on réduit les espaces de liberté qui existaient encore pour les semences non inscrites, ça fait quand même beaucoup. Et oser dire qu'on fait de la biodiversité en faisant ça, c'est franchement malhonnête.
Il est déjà 9h, là ?
Sur mon fond, il n'y a pas marqué Radio Réveil.
La fin du monde n'est pas seulement chez vous.
Et puisque la fin du monde n'est pas seulement chez vous, je vous propose un morceau du No Smoking Orchestra sur la bande originale du film La vie est un miracle. On va écouter Evergreen pour peut-être ce moment où enfin ce sera toujours vert grâce aux organismes génétiquement modifiés et aux semenciers.
Čovjek samo mladi lud i menja čud, preskoka kaže hop. Kada je čovjek samo mladi lud, tad sluša rock i pop. Kada si samo malo stariji, ozbiljniji, kad život pravi rez. Kada si samo malo stariji, tad slušaš samo jazz.
A moj ti svija evergreen, voli i otac mi si. Čak i Steve McQueen voli Evergreen. Samo mladi lud i menja čud preskoka kaže.
kaže hop. Kada je čovjek samo mlad i lud, tad sluša rock i pop. Kada se samo malo stariji,
ozbiljniji, kad život pravi red.
Kada se samo malo stariji, tad slušaš samo jazz.
Vous êtes toujours à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel sur 106.3. Comme chaque jeudi, vous écoutez Zoom Écologie et comme chaque deuxième jeudi du mois, vous écoutez Les Verts Solidaires. Je vous voyais, Aurélien et Michel, parler sur le plateau. Et Aurélien, je te voyais noter des choses pendant la musique. Alors, est-ce que ça veut dire que tu as plein de questions à poser ?
Ouais, en fait, la principale question, enfin la première que j'avais envie de poser à Michel, c'est celle des semences paysannes, puisque depuis tout à l'heure, donc notamment quand j'évoquais la loi relative aux certificats d'obtention végétale, on parlait de semences de ferme, c'est-à-dire de semences achetées à un semencier et ressemées par le paysan. À côté de ça, il y a encore des semences paysannes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Michel, là-dessus ?
Oui, c'est même, on peut dire que c'est la grande majorité. Il y a quand même il y a énormément de variétés qui existent, même s'il y en a beaucoup qui ont disparu. Hein. La FAO estime qu'il y a 75% de la biodiversité cultivée qui a disparu.
Mais la FAO, reste... c'est l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
Voilà, et donc, il en reste encore beaucoup, même s'il y en a beaucoup qui sont partis. Et donc, ce sont vraiment des semences libres de droit. Hein. Et là, elles existent, il y en a beaucoup dans les banques, notamment l'INRA a fait un très gros travail depuis les années 60, parce qu'on commençait déjà à avoir des problèmes. Et l'INRA a été chargé, l'Institut National de Recherche Agronomique, hein, il a été chargé de collecter et de faire des banques. Donc, on en trouve. Et puis, il se trouve que lorsqu'il y a des gens qui commencent à parler ça, bah, il y a des vieux, des petits villages, tout ça, qui disent « Ouais, moi j'ai une variété, tout ça. » Et on a également récolté pas mal de cette façon-là. Alors, si on veut les définir, on essaye au niveau de notre réseau, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un réseau d'acteurs, mais maintenant, on se sent un peu pressé, on est obligé de définir un minimum de choses, de définir un cadre, tout ça. Et quand on essaye de définir un peu les semences paysannes, alors, c'est pas du tout stabilisé. Hein, et on dit ce sont des populations en transition librement reproductibles. Alors, je vais détailler chacun des termes parce que je pense que chacun est très important. Population, hein, si vous avez compris ce que j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire avec une grande diversité intravariétale. Hein. En transition, il faut le comprendre, c'est un mot très à la mode, en transition en plus, hein, il faut le comprendre sous deux façons. Il y a la transition du fait que la plante ayant une grande diversité, elle n'est pas stable, elle va évoluer. Elle va évoluer avec son environnement, avec les méthodes culturelles, tout ça. Donc ça, c'est le premier type de transition. Et le deuxième qui renvoie à des choses peut-être encore plus importantes, c'est la notion de transmission. À l'intérieur d'une communauté, les graines sont transmises. Hein, et là, ça renvoie à quelque chose de fondamental, qui est la notion de commun ou de bien commun. Et on peut dire que c'est réussi quand on a transmis, à l'inverse d'un bien privé, qu'à partir du moment où on l'a privé, on arrête la transmission. Hein. Et ça, je pense que dans la notion de la gouvernance, j'aime pas beaucoup ce terme-là, mais dans la notion des modes d'organisation des semences, tout ce qui tourne autour des biens privés, ça amène à des droits d'usage collectif, et la notion de transmission est très importante. Donc, population en transition, c'est transition de la plante elle-même, et transmission d'une génération à l'autre, ou d'un groupe à l'autre, peu importe. Et librement reproductible, alors ça, c'est bien sûr libre de droit, hein, c'est-à-dire pas de droit de propriété intellectuelle dessus. Et l'autre forme de reproductibilité, c'est que les semences qu'on utilise donnent effectivement une bonne récolte. Et là, ça nous amène sur une autre question qu'on appelle les hybrides F1. Alors la plante emblématique, enfin la symptomatique de ça, si vous voulez, c'est le maïs hybride. Maintenant, il faut savoir que sur le catalogue, il n'existe que des maïs hybrides. Ils sont fabriqués par les semenciers à partir de deux lignées parentales qui sont très différentes l'une de l'autre. Chacune des lignées est complètement consanguine, il n'y a absolument plus de diversité, mais puisqu'il y a deux lignées, disons que ça donne une bonne récolte et homogène et assez productive.
Mais une seule bonne récolte.
Et une seule bonne récolte, effectivement, parce que si on réutilise une partie de cette récolte comme semence, ça ne marche pas, ce n'est pas stérile, mais ça donne une production très hétérogène qui n'est pas vraiment utilisable. Et le fait est que lorsque ces hybrides sont arrivés, c'est vieux, hein, c'est surtout un peu avant la guerre et surtout après la guerre, lorsque ces sont arrivés, ben, disons, les paysans ont arrêté de refaire leur propre maïs. Aujourd'hui, sur le catalogue, vous n'avez plus que ce type d'hybride. Et ça, c'est une confiscation du vivant, ce qu'on appelle, nous, la confiscation biologique. Alors, c'est vrai pour les maïs, mais maintenant, il y en a, même sur les potagères, notamment tous les choux sont faits avec ça. Alors, on utilise du génie génétique, en plus, pour permettre d'en faire des hybrides. Les colza, c'est fait comme ça. Et l'idée, c'est toutes les plantes sur lesquelles on peut faire en sorte qu'il faille obligatoirement acheter la semence, ben c'est très bien. Alors, il faut reconnaître que les semenciers connaissent leur métier. Ça donne des résultats, à condition d'y mettre quand même engrais et pesticides. Hein. Mais voilà, donc ça, c'est l'autre forme de confiscation. Donc, quand on dit librement reproductible, ça veut dire deux choses, pas de droit de propriété intellectuelle et semences qui, effectivement, fonctionnent correctement.
Et donc, ces semences paysannes librement reproductibles, elles ne tombent pas sous le coup de la loi qui est passée le 28 novembre. Et donc, on peut les utiliser sans avoir à payer de taxes à personne. On peut se les échanger et on peut les cultiver.
Non. Si vous avez des semences, vous pouvez les cultiver. Mais vous n'avez pas le droit de les échanger ou de les vendre ou les échanger, de toute façon, c'est considéré comme du commerce. Même l'échange est considéré comme du commerce. Vous n'avez pas le droit de les vendre à quelqu'un qui, lui, va utiliser la production pour la vente. Hein, ce qui était toléré jusqu'ici, c'est d'utiliser des plantes non inscrites au catalogue, hein, pour usage amateur. C'est-à-dire, quand on vend à des jardiniers, les jardiniers ne vendent pas leur récolte, c'est de l'autoconsommation. Et là, il y avait une tolérance. Et cette tolérance, précisément dans cette loi, elle vient de sauter. Hein? Donc, si vous voulez, la loi, elle porte beaucoup sur les semences de ferme, mais elle porte aussi sur les semences paysannes.
Donc, toutes ces semences paysannes deviennent hors la loi. Qu'est-ce qui reste
Ce qui reste, il reste quand même tous ceux qui peuvent faire par eux-mêmes. Et puis après, on peut échanger des grains. On dit qu'on n'échange pas de la semence. Enfin, et aussi, moi, je tiens à dire la chose suivante, c'est qu'on est en réseau pour ça. Hein. On pense que le droit n'est pas pour nous. Le droit positif, le droit de la loi n'est pas pour nous. Mais je pense qu'on a une très grande légitimité quand on essaye de mettre en œuvre la biodiversité et de rendre les paysans plus autonomes. Là, avec ce type de loi, les paysans sont pieds et poings liés. Enfin, je pense que les gens le comprennent. Donc, les rendre les plus autonomes. Donc, on a une forte légitimité pour nous. On continue à se battre. Et il faut savoir qu'on a quand même lancé, le lancement, c'était le 26 septembre, une campagne. Pour une loi de reconnaissance positive des agriculteurs qui s'appuie sur des traités internationaux que la France a signés mais n'a pas mis en œuvre. Alors, on n'a peut-être pas le temps de parler de ça, c'est très intéressant. C'est un traité qui reconnaît, un traité international, de niveau international, qui reconnaît le droit des agriculteurs à produire, utiliser, échanger, vendre leurs semences de ça. Hein. Et la France doit le traduire en droit national. La seule chose qu'elle ait traduit en droit national, c'est de rassembler une collection nationale pour pouvoir le mettre dans un pot commun et récupérer elle-même des semences d'ailleurs. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, mais disons c'est ça. Par contre, les droits des agriculteurs ne sont pas reconnus. Donc actuellement, on a une campagne très importante où il y a pas mal d'organisations qui sont avec nous. Et on peut la trouver sur semonslabiodiversité.com. Hein, on a un site. Et on veut faire avancer toutes ces choses-là. Et puis, moi, je dirais que je suis faucheur volontaire. Et puis, de toute façon, si à partir du moment où la loi ne sert pas l'intérêt général, il faut de temps en temps désobéir à la loi. Et ce qu'il y a, c'est que maintenant, ce n'est pas des individus, ce sont des réseaux qui fonctionnent. Et à la limite, on aimerait bien voir un procès où on nous dise qu'on a tort d'utiliser les arrêtés population. Ça serait intéressant quand même.
Mais non, ce que tu dis, c'est un appel à la délinquance agricole. C'est très, très grave.
Oui, mais ça, je suis habitué. Ça, c'est pas grave. Non, mais... Pour être tout à fait sérieux, je pense que si on continue comme ça, on est en train de se mettre pieds et poings liés, c'est l'arme alimentaire, hein, pour le premier maillon de l'agriculture qui est la semence, on est en train de se livrer à 8, à peu près, moins de 10 multinationales. Alors derrière, il y a des petits semenciers, d'accord, mais ils sont plus ou moins regroupés à ça. Et ce que je trouve dramatique, et même très interrogateur sur le plan de la démocratie, c'est que les gouvernements, non seulement les accompagnent, mais ils les aident et ils nous chassent, nous, comme je le disais tout à l'heure. Ils ont refusé qu'on puisse inscrire des variétés population, qu'on donne un cadre juridique aux variétés population.
Je crois que vous avez une prochaine campagne qui devrait démarrer. Tu nous en as parlé en off tout à l'heure, au réseau des semences paysannes.
Oui, alors c'est une grande campagne, c'est celle dont je viens de parler, et à l'intérieur, il y a plusieurs morceaux, parce qu'il se trouve que les semences, il y a l'aspect propriété intellectuelle, il y a aussi l'aspect ressources génétiques, il y a l'aspect OGM, il y a l'aspect catalogue, il y a beaucoup de choses. La deuxième campagne qui va être lancée maintenant par l'intermédiaire des artisans semenciers qui sont dans notre réseau, hein, la campagne apparaîtra dans leur catalogue, hein, c'est le BioGM, Germinance, tous ces gens-là. Et elle porte plutôt sur les semences paysannes. Alors il y a trois choses, hein, je peux les dire rapidement. C'est qu'on demande le maintien de pouvoir vendre des semences non inscrites pour usage amateur. On veut pouvoir faire inscrire des populations sur le catalogue, ce qui suppose qu'il y ait une existence juridique des populations, qui est refusée pour le moment. Et la dernière revendication, c'est faire en sorte que les échanges entre agriculteurs, ces échanges qui ont été le cœur de la production de cette diversité cultivée d'une extrême richesse, que ces échanges entre agriculteurs puissent se faire. Alors échanges et puis vente de semences entre eux, que ça soit en gros de la réglementation du catalogue, quoi. Et c'est un combat qui... De toute façon, nous, on pense qu'on est parti pour plusieurs années. Et ce que je voudrais dire, c'est que les semences, ce n'est pas un sujet qui est bien rentré dans la tête du public, du grand public, et pas beaucoup non plus dans celle des élus. Hein. Ça marche souvent un peu en même temps. Et si vous voulez, les OGM, on y est arrivé. Tout le monde a entendu parler des OGM. Et maintenant, je pense que les choses sont relativement claires, à tel point même que le gouvernement fait... Claire, haut et fort, qu'ils vont reprendre une clause de sauvegarde, mais ça sera pour tout à l'heure. Ça, hein, sur les semences, on n'y est pas vraiment arrivé. Ce qui touche les gens quand on en parle, c'est le problème de la biodiversité. Ça, je pense que tout le monde comprend qu'il y a un véritable danger si on laisse disparaître la diversité, ou du moins qu'elle s'érode trop. Et la deuxième chose, c'est l'appropriation du vivant. Parce que n'importe qui, quand on lui explique que les semences, qui sont quand même la base de la nourriture, sont appropriées par moins de 10 firmes, alors là, effectivement, ça commence à faire des ordres. Alors après, toutes les subtilités par rapport à l'utilisation des semences de ferme, semences paysannes, c'est un peu plus compliqué, il faudra peut-être un peu de temps. Mais sur ces deux choses fondamentales, l'appropriation des vivants et la biodiversité, je pense qu'on peut rassembler à peu près tout le monde, sauf peut-être le ministre de l'Agriculture.
Et donc, on peut retrouver toutes ces campagnes sur semonslabiodiversité.com.
Voilà.
Très bien. Michel Metz du réseau des semences paysannes, tu restes avec nous, notamment lors de notre interview par téléphone de Jean-Marie Sirvins, qui est le vice-président de l'Union nationale des apiculteurs français. En attendant, pour remettre un petit peu de légèreté par rapport à ces sujets graves, nous allons écouter un morceau des Fatal Picard sur leur album Droit de Veto. On retourne en Picardie pour écouter Raoul et Rosita.
Raoul, attention derrière toi! Attention, un chauffeur!
Quand le danger fait face à l'amour, quand les sentiments appellent au secours, Raoul et Rosita, ils sont là. Ils aimeraient avoir un portable sans fil, mais c'est en vain. Qu'ils sont dans un feuilleton des années 80. Raoul et Rosita, justicier de la loi. Raoul et Rosita, justicier de la justice. Jardinier bagarreur, il vous offre des fleurs. Raoul, il court plus vite que les voleurs. Même dans le noir, il n'a jamais, jamais peur. Il aime les animaux, il les prend sur son dos. Rosita, elle touche vachement quand il s'agit de tulipes.
Rosita pleure la nuit, c'est qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Mais Raoul l'emmène jouer au bowling quand elle a froid. Et ils ont tellement d'affaires à résoudre et à essayer qu'ils ne pensent plus à leurs problèmes hormonaux, ou très peu.
Raoul et Rosita, c'est pas vous les méchants. Raoul et Rosita, même si vous montrez les dents. Armés de leurs outils, ils nettoient vos soucis.
Aujourd'hui, Raoul et Rosita dans mes chaussures de bowling me ballonnent.
Et voilà, on était donc avec les Fatal Picard et nous allons passer tout de suite au téléphone avec Jean-Marie Sirvins. Jean-Marie, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, je vous entends, bonsoir.
Super, bonsoir. Jean-Marie Sirvins, vous êtes le vice-président de l'Union nationale des apiculteurs français. Alors, autour de la table, nous sommes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est toujours l'émission Zoom Écologie. Nous avons Aurélien qui va vous poser des questions. Michel Metz du réseau des semences paysannes qui est resté avec nous et qui pourra réagir lors de l'interview. Et eh bien, Aurélien, je te laisse commencer.
Voilà, on voulait avoir votre avis sur la décision de la Cour de justice de l'Union européenne prise début septembre qui interdit de commercialiser du miel dans lequel on retrouve du pollen d'organismes génétiquement modifiés. En quoi cette décision impacte votre activité ? Je sais que l'UNAF a lancé une campagne suite à cette décision pour alerter les pouvoirs publics, pour alerter les citoyens sur cette décision et sur ces risques. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ?
Oui, alors cette décision de la Cour de justice européenne est intervenue le 6 septembre. C'est une décision qui donc interdit la commercialisation du miel quand il contient du pollen OGM. Du Monsanto 810. La Cour de justice s'appuie sur le fait que ce pollen n'est pas autorisé en alimentation humaine. Alors c'est une décision extrêmement grave et qui bloque tout le commerce du miel au niveau européen et même mondial, puisqu'il y a des pays effectivement qui cultivent des OGM. Donc cette décision, elle ne surprend pas beaucoup et elle est quand même dans la logique des choses, puisque les consommateurs, en particulier les consommateurs européens, veulent de la transparence et ne veulent absolument pas qu'il y ait du pollen OGM dans leur miel. Et la dernière, il y a encore eu un sondage récent qui date de 3 jours, là, qui dit que 80% des Français ne veulent pas d'OGM en plein champ et 68% ne veulent pas dans leurs assiettes. Seulement, voilà, maintenant, il faut quand même penser aux apiculteurs qui sont dans des pays où ils se cultivent des OGM, notamment l'Espagne. Le miel espagnol actuellement est bon à mettre à la poubelle, puisque le négoce ne veut pas l'acheter et ne peut pas l'acheter, puisque le consommateur ne doit pas le consommer. Donc nous, ce que nous demandons au niveau de la Commission européenne, c'est un moratoire sur toute culture pollinifère et ou nectarifère en Europe. Nous n'avons pas d'autre solution.
Et du coup, ça va à contresens de la dernière décision du Conseil d'État qui arrête la suspension de culture du maïs OGM de Monsanto du 24 novembre.
Voilà. Alors effectivement, cette décision qui fait suite d'ailleurs à une autre décision de la Cour de justice européenne qui avait eu lieu quelques jours, je crois le 12 septembre après, ou le 8 ou le 12, Et le Conseil d'État a suivi la nouvelle décision par rapport au moratoire français sur le Monsanto 810. Cette décision, le gouvernement français, par le président de la République et les deux ministres, a dit qu'il voulait reprendre une nouvelle clause de sauvegarde. Mais nous sommes quand même très inquiets, nous les apiculteurs, et puis comme d'ailleurs les consommateurs, et puis les agriculteurs qui ne veulent pas d'OGM dans leurs champs, nous sommes très inquiets parce que ce nouveau moratoire qui va être pris, nous sommes en période préélectorale, on ne voudrait pas quand même que, passer les élections présidentielles, ce moratoire dégringole de nouveau et que du maïs Monsanto 810 puisse être semé en France en 2012. Ce qui ferait des apiculteurs, encore une fois, nous serions dans le cas des Espagnols en 2012 où notre miel en zone de grande culture ne vaudrait plus rien du tout.
D'accord. Et vous pourriez avoir une réaction qui serait de dire, au final, on peut consommer du miel avec des OGM dedans. Pourquoi est-ce que vous dites que le problème à la base, c'est le fait de cultiver des OGM ?
Moi, je crois que là, il faut regarder ce que veulent les consommateurs. Je crois qu'ils ont tellement raison. Et là, je dirais, c'est plus l'apiculteur qui parle, c'est aussi le consommateur. C'est que quand même pas mal d'études scientifiques disent que la technologie des OGM n'est absolument pas sûre. De plus en plus de scientifiques se prononcent contre. Et du pollen, le pollen contient de l'ADN. Le miel, le nectar du miel ne contient pas d'ADN, mais c'est le pollen dans le miel qui est de l'ADN. Et ce pollen ADN, les consommateurs n'en veulent pas. Et comme l'abeille transporte le pollen sur une distance qui va au moins à 3 km, voire jusqu'à 10 km autour de la ruche, on se rend bien compte que la coexistence entre l'abeille et les plantes génétiquement modifiées est impossible. Donc je crois vraiment que cette décision du Cour de justice a démontré encore une fois, s'il en était besoin, qu'entre l'abeille et les OGM et les plantes OGM, il faudra choisir. Le pollen de cette plante est très prisé par les abeilles. Les abeilles vont chercher cette protéine. Il n'y a pas de nectar sur le maïs, mais contrairement à ce qu'on a pu entendre ici et là, l'abeille va chercher beaucoup de pollen de maïs. Et donc, de toute façon, même après, on ne sait pas quelles décisions vont être prises au niveau européen, mais ce qu'on sait, c'est que déjà, à l'avenir, le pollen sera toujours étiqueté « contient des OGM ». Donc, on sait très bien que le consommateur, à juste titre, ne voudra pas de ce miel. Donc, on comprend pourquoi les apiculteurs seront obligés de fuir ces zones de grande culture. Et il y aura le problème de l'apiculture n'est pas le plus grave. Je crois que le problème, c'est les plantes qui ont besoin d'être pollinisées dans ces zones, qui auront un déficit de pollinisation. Je pense en particulier aux kiwis, à toutes les fruits, les graines et les fleurs sauvages au niveau environnemental. C'est là que vraiment c'est extrêmement grave parce que si les apiculteurs s'en vont, il y aura un manque de pollinisateurs.
Ça veut dire qu'on pourrait se retrouver avec des zones dans lesquelles ne se retrouvent que des végétaux qui sont OGM ou qui sont gérés par des organismes comme Monsanto ou comme les semenciers dont on parlait auparavant. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus aucune reproduction naturelle des végétaux et il y aurait uniquement une semence d'organismes contrôlés et brevetés.
Oui, alors c'est déjà ce qu'on voit aux États-Unis et surtout en Argentine. Avec le soja qui est résistant à un herbicide, Roundup en l'occurrence, les apiculteurs, c'était des zones excellentes pour l'apiculture, ces zones où est cultivé à grande échelle le soja OGM. Et dans ces zones, les apiculteurs argentins, que nous connaissons bien, puisque nous avons des contacts nombreux avec eux, les apiculteurs argentins sont partis. Ils ont déménagé complètement parce que cet herbicide est déversé à l'hélicoptère et il n'y a rien dessous. Il n'y a plus aucune biodiversité. Sans parler même que ces plantes sont mauvaises pour la santé de l'abeille, elles n'ont plus rien à se mettre sous la dent dans ces zones-là. Il n'y a plus aucune biodiversité, il n'y a que du soja. Donc ça, c'est ce qui nous attend si jamais les OGM devaient être cultivés en France. On verrait par exemple tout le sud-ouest qui serait entièrement OGM, et ça, nous ne pouvons pas l'accepter.
Je crois que Michel voulait réagir.
Oui, bonjour Jean-Marie, on s'est déjà rencontré notamment à Bolène, je ne sais pas si
tout
tu te souviens.
Fait, tout à fait, pour les tournesols mutés.
Voilà, ben justement, je voulais dire juste un petit mot là-dessus, c'est qu'il y a d'autres formes d'OGM qu'on appelle les OGM cachés qui sont faits à partir de la mutagénèse. Et il se trouve que précisément, ces OGM sont fabriqués pour pouvoir tolérer les herbicides, c'est-à-dire qu'en France, alors que le soja, par exemple, récent aux herbicides, lui, il est interdit. Mais là, c'est autorisé déjà des tournesols. Alors, les tournesols et les colzas. Et ce sont des plantes sur lesquelles les abeilles vont beaucoup. Et c'est des plantes qui reçoivent beaucoup d'herbicides, puisqu'ils les tolèrent, justement. Hein, alors, ça, je pense que ça n'arrange pas les apiculteurs non plus. C'est une chose en plus.
Tout à fait. Ce que je voulais dire là sur ce sujet, et effectivement, tu as tout à fait raison de citer ces OGM qu'on appelle OGM cachés, c'est que ces herbicides ne sont absolument pas évalués comme les pesticides. Déjà, les pesticides, il y a des problèmes parce qu'ils sont mal évalués, mais là, c'est encore pire, il n'y a pas d'évaluation du tout sur l'abeille. Et il faut savoir que l'abeille, ces herbicides, il y a le phénomène de gutation qu'on appelle, c'est-à-dire c'est une excrétion de la sève de la plante. Les abeilles vont boire beaucoup ces herbicides. Donc nous avons les plus grandes craintes aussi sur ces nouveaux OGM, qui pour moi sont des OGM, mais qui, au niveau de la législation européenne, ce sont bien des OGM, mais ils ne sont pas soumis à la même réglementation que les OGM dits classiques.
Merci beaucoup Jean-Marie Servins d'avoir répondu à nos questions.
Désolé d'être aussi court parce que nous approchons de la fin de l'émission.
Je crois que nous avons dit l'essentiel.
Super. Et juste avant de se quitter, où est-ce qu'on peut trouver de l'information ou éventuellement des moyens de se mobiliser ?
Je voulais vous dire peut-être, si je peux me permettre, c'est que oui. Nous avons lancé une pétition au niveau français et européen, au niveau français avec 17 associations, syndicats apicoles, syndicats agricoles et aussi des associations environnementales comme la NPO, FNE. Et cette pétition, on la retrouve sur Internet aussi, c'est la pétition OGM abeille. C'est suite à cette décision de la Cour de justice européenne, nous faisons pression bien sûr sur les gouvernements des États membres et la Commission pour qu'il y ait un moratoire tout à fait sur l'Europe des OGM cultivés.
Donc si vous avez envie de vous mobiliser sur la question, vous tapez pétition OGM abeille sur votre moteur de recherche et vous trouverez le moyen de vous engager en faveur de ce moratoire sur les OGM.
Voilà, je vous donne exactement, on peut donner peut-être exactement
oui, oui.
Alors www.ogm-abeille.org.
Je rappelle que nous étions sur Fréquence Paris Pluriel. Comme chaque jeudi, vous écoutez Zoom Écologie. Nous étions avec Michel Metz du réseau des semences paysannes et avec Jean-Marie Sirvins de l'Union nationale des apiculteurs français. Il va bientôt être temps de nous quitter. Merci à nos deux invités présents physiquement ou par téléphone. Et restez à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel. Tout de suite après nous, c'est Musique Antilles. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonsoir.
J'ai bu toutes les bières qu'il y avait dedans depuis.